Soyez seul au milieu du monde. Les prochaines astuces vont être centrées sur votre environnement, donc sur des solutions concrètes et instantanées. Les dernières concerneront un peu plus le travail de fond qui vous permettra de continuer à renforcer votre attention au niveau de sa puissance et de sa durée. Lorsque vous entrez dans une phase de concentration, seul chez vous ou au milieu d'un bar bondé, vous changez de dimension pour devenir un Robinson Crusoe seul au milieu de son île. Malheureusement, des hordes de touristes peuvent débarquer à tout moment sur la plage pour vous déranger dans votre retraite. Ces touristes sont les amis, la famille, les enfants, les collègues, etc. Il y a aussi des feux spontanés qui peuvent s'allumer partout autour de vous sur la plage. Ce sont les notifications, les emails, le téléphone, la sonnette de la porte, etc. Vous n'êtes plus disponible et ça doit être très clair pour tout le monde. D'expérience, je sais que beaucoup ne sont pas à l'aise de se positionner en non disponible dans la vraie vie. Parfois, vous ne pouvez pas l'être complètement pour des raisons légitimes. Les parents qui télétravaillent se reconnaîtront. Vous le sentez venir ? Nous nous approchons de ce genre de contradiction où je vous sors de mon chapeau l'une de mes histoires personnelles. La vérité, c'est que vous devez être indisponible et disponible en même temps. Bonne nouvelle, j'ai essuyé les plâtres de ce dilemme avant vous. Nous sommes en 2017 et je me retrouve à l'Université de Lyon pour donner une conférence sur le cerveau. 2 heures que j'appréhende un peu, car durant mes conférences, je ne mélange pas les genres. Je ne fais pas de tour de mentalisme, comme en spectacle, et j'ai toujours peur que le public présent n'ait pas saisi cette nuance et soit déçu. Mais tout se passe bien. Les 500 personnes présentes dans l'amphithéâtre réagissent positivement. Après une séance de questions-réponses stimulantes, je pars vers la sortie pour rejoindre le stand de l'association qui organisait l'événement. Je me mets à la disposition des personnes pour signer un livre, prendre une photo ou simplement échanger quelques mots. J'identifie rapidement un jeune homme sur le côté qui semble ne pas savoir où faire la queue. Je l'interpelle et lui propose même de passer devant rapidement car je vois qu'il attend depuis un petit moment. Il me répond que non, qu'il attend volontairement la fin. Je continue donc à accueillir individuellement les personnes voulant discuter avec moi et après une petite heure, il ne me reste plus qu'à voir ce jeune homme à la patience rare. Il me dit, les bras chargés de documents, qu'il est venu me présenter un de ses projets et plus généralement discuter avec moi de centres d'intérêt que nous semblons avoir en commun. Pour le canaliser, je lui explique en souriant que l'on n'aura pas le temps de faire tout ça, que je vais partir dans quelques minutes, une fois que nous aurons échangé. Je vois l'incompréhension dans ses yeux et il argumente que j'ai tout le temps nécessaire puisqu'il n'y a plus personne après lui. J'essaie de lui expliquer qu'après un trajet de 3 heures de train, j'avais enchaîné avec 1 heure de voiture pour venir, suivi 1 heure de répétition, de 2 heures de conférence, 1 heure de rencontre avec le public et qu'il me tardait d'aller dîner et de me retrouver dans le calme de ma chambre d'hôtel. Il me demande alors comment faire pour que nous puissions prendre ensemble un café ou déjeuner ensemble pour avoir la discussion qu'il souhaitait avoir avec moi. C'est là où j'ai compris qu'il confondait l'accessibilité et la disponibilité. À sa grande déception, je lui ai expliqué que je n'étais pas disponible pour prendre les quelques heures que lui souhaitait, que son envie ne pouvait pas automatiquement rejoindre les miennes, que je ne pouvais d'ailleurs pas me rendre disponible selon le désir de chacun et qu'il était plus que probable que nous ne prendrions jamais un déjeuner ensemble. Cela peut sembler rude, mais il est important d'être honnête. Pour autant, je suis accessible à chaque instant. J'aurai toujours du temps pour un échange dans la rue, à la sortie d'un spectacle ou à distance même. La nuance entre l'accessibilité et la disponibilité n'est pas si ténue que cela finalement. Ces deux termes expriment 2 choses très différentes. C'est ce qui me rend non disponible en étant quand même disponible. Le paradoxe n'en est pas un. C'est la même chose que vous devez mettre en place lorsque vous souhaitez être concentré sans perturbation extérieure. Vous devez vous rendre indisponible, mais accessible. Voyons comment faire concrètement. Retournons dans notre métaphore initiale. Vous êtes de retour sur votre île, pas si déserte. Comment allez-vous gérer les touristes pour être accessible sans rompre votre concentration? En premier lieu, vous pouvez commencer par informer le monde de vos intentions. Soit directement, par exemple en expliquant à la cantonade du bureau que ce matin, vous avez besoin qu'on vous laisse travailler sans interruption sur un dossier important. Soit indirectement, par exemple en mettant un gros casque sur vos oreilles qui diffusera de la musique ou non, mais qui enverra un message assez clair sur votre manque de disponibilité. Dans un second temps, vous devez apprendre à dire non. Comme dans mon anecdote de vie, vous devez rester maître de votre énergie et de votre attention. Dire non est une obligation sociale lorsqu'on veut se concentrer durablement sur une tâche. En soignant la forme de votre non, vous pourrez expliquer pourquoi, donner la clé pour obtenir un oui, s'il en existe une, et ne pas frustrer la personne sans justification honnête. Imaginons que votre conjoint vienne vous montrer sa dernière trouvaille sur Internet alors que vous étiez plongé dans un livre dense que vous vous étiez promis de terminer. Vous pouvez lui dire « Non, je ne vais pas être attentif à ce que tu vas me montrer car je suis plongé dans mon livre. Si tu le veux bien, nous pourrons regarder ça juste avant de dîner. » Identifiez plusieurs points essentiels. Le non. Il est non négociable et sans ambiguïté. La forme. Elle est respectueuse et sans reproche. La justification. Elle est rapide, mais témoigne néanmoins de votre accessibilité. La solution. Car la raison de votre refus n'est pas le fond de la sollicitation. C'est simplement le mauvais moment. Vous pouvez décliner ces quatre points dans toutes les situations. Parfois, la solution est de demander à un collègue de vous envoyer un mail auquel vous répondrez à tête reposée en fin de journée. Pour conclure sur cette cinquième astuce, retour sur l'île déserte. Au lieu d'éteindre les feux qui peuvent apparaître partout sur la plage, vous allez préférer enlever tout ce qui pourrait s'enflammer. Sans combustible, plus de feu. Donc, exit les notifications visuelles ou sonores de vos appareils électroniques. Vous pouvez débrancher la sonnette de votre porte d'entrée. Bref, faire en sorte que rien ne puisse allumer une petite ampoule dans votre esprit. Je sais que vous le saviez déjà. N'oubliez pas que je suis mentaliste quand même. Et je sais aussi que vous ne le faites pas assez. Et vous saviez que je le savais. Les choses simples sont celles que l'on met le moins en place. C'est dommage, car ce sont souvent des solutions efficaces. Nous sommes biaisés par un excès de confiance qui nous fait croire que « Non, je ne coupe pas les notifications, mais je ne regarderai pas. Je n'en ai que pour 30 minutes et je suis capable de ne pas être perturbé par ça. » Souvenez-vous que c'est le même biais qui fait qu'une personne alcoolisée se dira qu'elle est quand même capable de conduire prudemment. Que vous le vouliez ou non, votre attention sera toujours affectée par un distracteur externe, même si vous ne succombez pas à l'envie d'y réagir, puisque l'énergie nécessaire pour y résister sera puisée dans votre stock de volonté. Préparez le terrain efficacement. Nous avons évoqué la sieste, bénéfique même si sa durée est courte. Être bien concentré, avec une attention optimale, c'est aussi avoir pris soin de son corps. Cette grosse machine complexe qu'est votre corps a des besoins. Vous êtes trop fatigué mentalement? Alors commencez par faire une pause. Attention, une vraie pause. Celle où vous ne sollicitez pas votre cerveau en le stressant sur Candy Crush ou en le bombardant d'informations en scrollant TikTok. Une vraie pause, c'est ne rien faire. Vous pouvez utiliser la technique des 120 secondes du début du livre audio, vous asseoir face à la fenêtre pendant 5 minutes ou aller marcher 10 minutes. Vérifiez également vos besoins primaires. On ne fait pas preuve d'une belle concentration quand on a la vessie pleine ou quand on a trop chaud. Prenez le temps d'être bien dans votre corps. Passons ensuite au carburant. Il n'y a que trois jauges à vérifier. L'oxygène, l'eau et la nourriture. Prévoyez d'être dans un endroit où l'air a été renouvelé, où la pièce n'est pas saturée en CO2 à cause de trois autres personnes qui travaillent au même endroit depuis des heures et qui n'ont jamais ouvert la fenêtre. Hydratez-vous correctement et régulièrement. N'oubliez pas que lorsque vous avez envie de boire un verre d'eau, c'est que votre corps, et donc votre cerveau, est déjà déshydraté. Enfin, mangez équilibré. des choses digestes, sinon vous allez repartir à la sieste, vous fournissant les bons nutriments pour travailler. Évitez les sucres rapides qui boosteront vos performances, mais qui retomberont d'un coup sec en vous faisant ressentir un énorme coup de barre. Évitez également les aliments riches en graisses saturées que votre corps aura du mal à synthétiser. Pour finaliser cette petite préparation, essayez d'avoir un rituel de lancement. Les rituels, les habitudes, sont très puissants pour mettre votre cerveau dans le bon état d'esprit. C'est d'ailleurs pour ça que l'on crée des rituels de coucher pour les enfants. Votre cerveau reconnaît le rituel et met déjà en place ce qu'il faut en anticipant les ressources que vous utiliserez après ce rituel. Vous pouvez par exemple vous dire qu'avant de vous mettre dans un état de focus sur une tâche, vous allez vous passer un peu d'eau sur le visage, vous servir un verre d'eau et lancer la même playlist musicale. Je vais vous confier mon rituel. Lorsque je veux être bien concentré comme aujourd'hui, je commence par me faire couler un café, que je boirai ou que j'oublierai à côté de moi. Ensuite, je me rhabille. Non pas que je sois sans vêtements juste avant, je ne suis pas comme Victor Hugo qui écrivait nu pour s'obliger à avancer dans son roman. Son personnel de maison avait ordre de ne lui rendre ses vêtements que s'il était capable de leur présenter un chapitre terminé. J'aime juste remonter mes chaussettes, refermer lacets, réarranger mes vêtements. Je lance ensuite la musique et mon cerveau reconnaît inconsciemment les conditions de « Fabien veut être concentré ». Si vous n'avez pas encore de rituel bien à vous, je vous recommande une technique d'ancrage efficace inventée par Hélène Hendriksen. Hélène est psychologue clinicienne. Elle exerce à l'Université de Boston. Sa méthode est dite « de pleine conscience ». La technique s'appelle le 5-4-3-2-1. Elle peut être faite n'importe quand et discrètement, sans se faire remarquer. Il m'est arrivé de la faire dans le train, juste avant d'arriver à destination pour me recentrer, entre le moment où je travaillais sur mon ordinateur et le moment où j'allais rencontrer les personnes m'accueillant à la gare pour le spectacle du soir. Le 5-4-3-2-1 utilise les cinq sens pour faire descendre la pression mentale et interrompre les pensées parasites. La technique me rappelle les créateurs de parfums que j'ai pu voir travailler à Grasse. Entre plusieurs respirations d'essence de plantes, ils plongent leur nez dans des grains de café pour respirer leur odeur. Ils m'ont expliqué que l'odeur des grains de café remettait à zéro leur compétence olfactive. C'est pareil avec cette méthode, mais pour votre cerveau. Une sorte de nettoyage qui vous donne ensuite le champ libre pour vous concentrer sur ce que vous voulez. La méthode de pleine conscience. 5. La vue. Observez votre environnement calmement et cherchez à identifier 5 choses qui s'y trouvent et qui peuvent marquer votre attention. Ça peut être des choses belles, intrigantes, utiles, etc. Tant que ça n'est pas quelque chose d'angoissant, alors la chose que vous allez identifier est valide. Regardez simplement ces 5 éléments. 4. L'ouïe. Faites l'effort de recenser 4 sons distincts plus ou moins proches de vous. Cela peut être la musique de la radio à côté de vous, jusqu'au marteau-piqueur qui retentit à 2 ou 3 rues de là. Une voix, un son, une mélodie, tout est accepté. Identifiez simplement ces 4 éléments. 3. Le toucher. Sans bouger, cherchez à ressentir 3 sensations différentes sur votre corps. Le contact de votre bague avec votre doigt, un courant d'air dans votre cou, votre pull sur vos bras ou encore votre talon contre la chaussure. Observez mentalement ces 3 sensations qui étaient là, mais que vous ne conscientisiez pas encore. 2. L'odorat. Ça se complique un peu. Nous n'avons pas l'habitude de solliciter volontairement notre odorat, et il est possible que l'environnement où vous vous trouvez ne soit pas très riche en informations olfactives. Essayez quand même. Actuellement, vous pourriez sentir une odeur de nourriture, un parfum, l'odeur de la pluie, etc. Essayez d'identifier 2 odeurs différentes. 1. Le goût. Rassurez-vous, vous n'allez pas devoir coller votre langue sur les objets qui vous entourent. votre goût est toujours actif. Il ne possède pas de bouton on-off. Pourtant, vous ne conscientisez ces informations que lorsque vous mangez ou buvez quelque chose. Pour cette étape, vous pouvez simplement vous concentrer sur le goût naturellement présent dans votre bouche ou bien stimuler votre goût en mettant de la nourriture, une boisson ou une gourmandise dans votre bouche. La méthode du 5-4-3-2-1 mélange les principes de la pleine conscience et de la méditation rapide. Elle a initialement été pensée pour diminuer le stress et l'anxiété, les domaines de compétence de Helen Hendriksen. S'il semble facile de faire ces 5 étapes, vous constaterez que plus vous l'utiliserez, plus vous serez entraîné et plus vous aurez de résultats après l'avoir utilisé. De cette 6e astuce, retenez qu'il n'est pas vain de préparer le corps et l'esprit à se concentrer, et que ces mêmes techniques permettent de reprendre la main sur une attention dispersée à tout moment de la journée, même si vous n'avez pas un but spécifique ensuite ou une tâche particulière à réaliser. Optimisez la durée de votre attention. Nous arrivons aux 2 derniers points. Ceux qui vous permettront d'améliorer une session où vous voulez être focalisé sur une tâche particulière, mais qui, avec de la pratique, vont améliorer votre capacité de concentration ainsi que la puissance et la précision de votre attention. Une étude de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, publiée fin 2020, a augmenté notre connaissance du sujet en prouvant que les interruptions ont un réel impact sur les hormones de stress dans notre corps. Quand on vous stoppe, le cerveau s'agace. On s'en doutait, maintenant on le sait. Si l'on s'en tient au test de vigilance, que Norman Mackworth, psychologue cognitif britannique, a conçu pendant la Seconde Guerre mondiale pour les opérateurs qui regardaient les radars, la durée idéale pour une attention optimale est de 25 à 30 minutes pour un individu sans trouble particulier. Pour une concentration normale, comptez 1 à 2 heures d'efficacité réelle avant que vos performances cognitives ne réduisent leur efficacité concernant la tâche que vous effectuez. Il n'y a pas de chiffre officiel sur la durée de la concentration. Je ne fais que croiser des données, prendre en compte des consensus, intégrer les travaux d'Anders Ericsson, chercheur et professeur en psychologie spécialisé dans les performances humaines. Loin de pouvoir vous donner un chiffre rigoureusement scientifique, j'ai voulu tendre vers l'hypothèse la plus crédible. Que retenir de tout ça en termes de durée optimale? Tout d'abord, que vous ne regardez pas des radars toute la journée pour détecter une menace éventuelle. Donc il y a de fortes chances que votre concentration puisse tenir plus de 30 minutes d'affilée. Ouf! Ensuite, que vous n'êtes pas l'un des champions étudiés par Norman Mackworth, qui était capable de faire 2 à 3 sessions intenses de 90 minutes de travail par jour. Votre temps de concentration est probablement situé aux alentours d'une heure. En une heure, on peut faire beaucoup de choses, y compris oublier de s'arrêter au bout d'une heure, surtout si on est concentré et absorbé dans ce que l'on fait. Mais si vous voulez reproduire cette heure de concentration, il vous faudra faire une pause afin de reposer vos capacités mentales. Je vous recommande de mettre une alarme, agréable au son, si vous ne voulez pas surveiller votre montre régulièrement. Encore une manière d'alléger votre mental. Restez concentré une heure maximum et faites une pause d'au moins 10 minutes avant d'entamer une nouvelle session. C'est le meilleur rythme que je puisse vous recommander. Il est possible que cette durée soit trop longue au départ. Dans ce cas, commencez par 45 minutes ou 30 minutes. Augmentez vos sessions dans le temps lorsque vous serez plus habitué à cet effort. À toute fin utile, sachez que j'ai augmenté ma concentration jusqu'à atteindre une durée de 2 heures, parfois un peu plus. Mais le prix à payer est une longue pause derrière, et surtout les sessions qui suivent sont de plus en plus courtes. Il n'y a pas de raccourci magique lorsque l'on parle des performances du cerveau humain. Pour conclure sur cette astuce, retenez que votre concentration se mesure à l'aide de 2 critères. 1. La force de votre concentration. Votre capacité à ne pas vous laisser distraire par des facteurs internes ou externes quand vous souhaitez vous concentrer sur une tâche précise. 2. La durée maximale où vous pouvez maintenir cette force de concentration. Apprenez à vous entraîner. L'attention. Nous l'avions comparé à un faisceau lumineux que nous pouvons orienter dans une seule direction. S'il est essentiel d'avoir des astuces pour se concentrer sur une tâche précise, il ne faudrait pas négliger l'entraînement permanent. Lorsqu'un sportif veut se lancer dans son premier marathon, l'exploit que l'on applaudira sur la ligne d'arrivée n'est pas d'avoir couru 42,195 km, mais plutôt sa détermination à s'être entraîné pendant des mois en vue de cette course éphémère. Son entraînement lui aura permis de réaliser une performance, mais aussi de protéger son corps d'un effort trop intense. Car il n'est pas naturel de courir une telle distance en quelques heures. Et ceux qui s'y frottent sans être préparés le paient souvent par un abandon ou un séjour dans l'attente des premiers secours. Pour l'attention, c'est la même chose. En vous entraînant régulièrement, vous allez vous préparer à être plus performant quand vous aurez besoin de l'utiliser de manière soutenue. Vous éviterez une mise en échec et vous allez renforcer sa protection pour qu'elle papillonne moins dans votre quotidien. Voici quelques exercices que vous pouvez faire régulièrement, sans peine. La méthode 5-4-3-2-1, décrite il y a quelques minutes. Le jeu des 120 secondes. La contemplation d'un dessin, d'un objet ou d'un paysage pendant 1 à 5 minutes. Vous devez regarder la chose en question, sa texture, sa forme, ses couleurs, tout en essayant de laisser s'échapper toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit. La contemplation de votre respiration, en observant 10 à 15 cycles complets d'inspiration-expiration. Prenez conscience de la circulation de l'air par votre nez, de vos poumons, de cet air chargé de CO2 qui est expulsé de votre corps. La mémorisation photographique. Regardez quelque chose, fermez les yeux et essayez de vous en souvenir le plus précisément possible. Ouvrez les yeux pour vérifier. Vous pouvez même le faire dans les transports en commun en observant une personne rapidement et en essayant de vous souvenir de ses habits, des couleurs de ses vêtements, de ses cheveux, etc. En effectuant ces exercices sur des moments opportuns, ils ressembleront à de petits jeux rapides. Vous allez densifier votre attention sur le long terme. Vous allez l'habituer à se réguler et à ne pas se faire happer par les pièges habituels. Si vous vous demandez s'il existe des choses essentielles ou un incontournable pour améliorer encore plus durablement l'attention, alors poursuivez votre écoute.